Le livre de Romains, c'est une chose qui, c'est un livre qui mérite d'être vu parce que ça explose avec une nouvelle compréhension de cette capacité de recevoir une justice pour que la mer s'arrête de s'agiter, entre autres. Romains chapitre 1, verset 16 et 17 sont des versets peut-être le plus important dans toute la Bible. On a parlé la semaine dernière d'aucune condamnation, mais on n'a pas vraiment exposé le verset. On a exposé en partie quelques avantages de cette réconciliation, parce que c'est ça le problème. Où on est réconcilié avec le juge de toute la terre, où on est en train de se justifier devant le juge de toute la terre. Et Romains chapitre 2 dit que même un païen, il est constamment en train de être accusé par un juge à l'intérieur ou s'excuser. Il s'accuse. On cherche à s'excuser parce que on ne s'arrête pas d'entendre la voix d'accusation quelque part. Et parfois, on se met en colère contre cette voix. Parfois, il y a des gens qui, à un moment donné, ils se mettent en colère, ils ne savent même pas pourquoi. C'est vous. Oh, vous ne perdez pas contrôle à 100% de vous-même. Mais vous êtes irrité, vous êtes pas bien à l'intérieur. Vous écoutez la voix de la condamnation et vous attaquez tout de suite cette voix. D'où elle vient, je sais pas. Et ça, c'est l'humanité. Ça, c'est l'humanité vers laquelle Christ est venu pour annoncer l'Évangile. Nous avons un cantique. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et puis, une autre strophe. L'homme ne vivra par le pain seulement. Et puis, assez récemment, vous m'avez enseigné, vous les jeunes, une troisième strophe qui vient de ce verset, Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai honte de l'Évangile, un peu comme ça. Je n'ai honte de l'Évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut à quiconque qui croit, virgule, du juif, premièrement, virgule, puis de grec, virgule, mais nous mettons un point à notre mal. Pourquoi l'apôtre Paul n'avait-il pas honte de l'Évangile? C'est clair. Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et puis c'est presque comme entre parenthèses, on a envie qu'il n'avait mis comme ça, parce que ça c'était vraiment comme c'est une parenthèse. Pas à un seul groupe ou d'autres. Le grec, premièrement, c'est lui qui a entendu l'Évangile en premier, et c'est de sa race où est sortie la racine de cette justification dont nous en avons parlé. Mais on est laissé dans le vide. si on s'arrête à la fin de verset 16, parce que nous n'avons pas compris pourquoi Paul n'a pas honte de l'Évangile. La réponse n'est pas en verset 16, mais en verset 17. Pourquoi n'a-t-il pas honte de l'Évangile? Oui, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut à tous ceux qui croient. Que ça soit juif, que ça soit grec, s'arrête là. Et qu'est-ce que vous avez? Oui, c'est la puissance de Dieu. Puissance de Dieu, d'accord? Dieu est puissant. On est tous d'accord que Dieu est omnipuissant. Il est tout puissant. Il peut tout faire. En tant que chrétien, on est presque universellement d'accord avec ce fait que Dieu est tout puissant. Il est la puissance de Dieu pour le salut, mais il n'y a pas d'explication. Il y a une énonciation. Je n'ai pas honte parce que il y a cette puissance devant moi, en moi, où il n'est pas marqué dans ce verset, mais il y a cette puissance de salut. À moins que nous comprenions ce que c'est le salut, on sera laissé dans le vide ici, et c'est bien, ça fait un bon cantique aussi, et ça fait un bon verset, et moi, je n'avais même pas 10 ans avant que j'avais mémorisé par cœur ce verset en anglais, mais j'ai jamais mémorisé le 17e verset. En fin de compte, avant de faire cela, même quand j'arrive à verset 16, ça commence par le mot « car », qui veut dire que ça s'est attaché à ce qui précède, où l'apôtre Paul dit en verset 15, « Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi à vous. » À vous qui? À vous qui êtes à Rome. Paul n'avait jamais visité Rome. Il connaissait des chrétiens de Rome, mais il n'était jamais en Rome. Il existe une nouvelle église avec des nouveaux croyants qui étaient des bébés en Christ. Et nous voyons l'apôtre Paul vit dans ses désirs d'être avec eux parce que il n'était pas très mûr, probablement. On ne connaît pas grand chose, mais en verset 11, par exemple, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, c'est-à-dire un que vous n'avez pas, mais vous en avez besoin, ou si c'est moi, je pourrais y aller, afin que vous soyez affermis. Je suppose que ils étaient très, très, très fragiles en tant qu'Église. Il se peut que Néron était déjà le empereur. Il était sans doute déjà clair que les chrétiens commencent déjà à être soupçonnés de faire des choses derrière, de faire des choses contre le gouvernement. À l'extérieur, tout semblait marcher bien. Mais à l'intérieur, il y avait sans doute des personnes qui lisaient, qui ont entendu certaines choses en ce qui concerne la fin de l'année, qui pensaient peut-être des fanatiques. On entend très souvent des islamistes qui disent, écoute, ce qui se passe n'est pas l'islam, ne fais pas attention à ça, pour identifier nous avec eux. Et d'un côté, ils ont raison. Il y a un grand nombre d'islamistes qui sont horrifiés par des choses théoristes qui se font, et de l'autre côté, peut-être ils sont moins à écouter qu'on penserait. Mais de toute façon, même les Juifs étaient aussi comme cela. Il y avait plusieurs disciples qui venaient d'un secte de théorisme, les zélotes, qui pensaient qu'il fallait sauver le royaume contre les Romains et il ferait les attaques terroristes pour faire tuer quelqu'un d'important dans le gouvernement. Les Juifs faisaient ça aussi. Et sans doute ceux qui portaient le nom chrétien faisaient la même chose. Et quand il arrive une bonne occasion pour Néron, l'empereur, de laisser la blâme pour ses bêtises et sa folie sur un groupe, pourquoi pas des chrétiens, ça vaut le coup. Et puis, ça commençait déjà à tourner ici. Et Paul était, il avait à cœur ces gens. Et il priait pour eux. Il voulait être là avec eux. Il parle dans ce passage avant verset 15 de son amour pour cette communauté, qui est, comme il prie pour eux, dit verset 8, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans tout le monde entier. Alors ça, c'est la première chose, la foi. La foi est la main qui reçoit la grâce de l'évangile. La foi n'est pas à applaudir comme la main d'un mendiant n'est pas à applaudir parce qu'il lève la main pour recevoir votre pièce de monnaie. On n'applaudit pas sa main. On attend qu'il fasse quelque chose. Sa main à son serviteur pour recevoir ce que vous risquez de lui mettre dedans. Mais la foi, c'est absolument essentiel pour que ce que Paul va enseigner dans le restant de ce livre puisse atteindre notre cœur. Il faut que nous comprenions intellectuellement certaines choses de base. L'intelligence joue un grand rôle absolument indispensable. Il faut que nous comprenions et jusqu'au niveau de notre compréhension, notre foi peut saisir pour que nous puissions agir dessus. Mais notre foi ne peut pas avancer au-delà de ce qu'on sait. Notre foi est basée sur des réalités qui sont à trouver dans la parole de Dieu. Et Paul dit, je voudrais être avec vous pour communiquer des dons spirituels, pour que vous soyez affirmés, ou plutôt afin que vous soyez encouragés ensemble. C'était découragé apparemment, verset 14. Au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, la foi est une chose commune à qui que ce soit, ont reçu cette justification. À vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorant non plus, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous. Mais attention, sachez-vous que Paul n'avait pas un projet d'aller à Rome, sauf comme un petit délai en route d'Espagne. Paul n'avait pas fait, je vais aller à Rome, aller-retour. Non, Paul dit, si jamais je vais en Espagne pour évangéliser, je vais m'arrêter à Rome parce que je voudrais partager un don spirituel avec eux, affirmer leur foi, les encourager ensemble en tant qu'église et en tant qu'individuel. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Où il annonce ici, si vous m'excusez de revenir en verset 5, je voulais vous montrer quelque chose, parce que cet évangile est universel par rapport aux nations. En parlant de Jésus-Christ et ses qualifications d'être l'auteur de cet évangile, il dit, par lui, Jésus, nous avons reçu la grâce, moi, Paul, et l'apostolat, moi Paul, pour mener en son nom à l'obéissance de la foi tous les
quoi?
Nations, toutes les nations. L'évangile était pour eux. Et puis quand il arrive ici en versets 13 et 14, je ne veux pas que vous soyez ignorants, frères, et j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois, attention, vous voyez le mot nation, comme parmi les autres nations. Vous êtes une nation, Italie, vous dans la capitale, parmi beaucoup d'autres, et je suis empêché d'y aller parce que je me dois, verset 14, aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants, donc l'universalité de ce que Paul dit, je me dois à eux. Paul était un débiteur. Et notez ici, et regardez le avant-dernier chapitre. Avant-dernier chapitre, ce n'est pas sur l'écran. Je ne sais même pas si je vais allumer l'écran. En verset 24, nous lisons ceci. Il arrive à la fin, vers la fin. J'espère vous voir en passage, en passant quand je me tendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Donc, j'ai envie d'être chez vous. J'espère de pouvoir arrêter quand j'aille en Espagne. En fin de compte, nous ne savons si jamais il est arrivé en Espagne. Il n'est pas marqué dans la Bible qu'il a jamais pu réaliser ce projet d'aller en Espagne. Donc, il n'a pas non plus réalisé le projet de s'arrêter en Rome. Mais il dit en verset 28 aussi, « Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. » Donc, voilà, le passage où, et nous ne lisons jamais qu'il a terminé par réussir son projet d'aller en Espagne. Donc, il n'est jamais terminé son projet pour aller en Rome non plus, parce que il allait faire ça de passage. Donc, on arrive maintenant en verset 14, en verset 15. Il est en train de présenter quelque chose qui sera universel, ce qui est un nouveauté. Il y avait la race juive, il y avait les païens, c'est tout. Pour les juifs, il n'existait que, et les païens, Dieu avait favorisé les siens. Et en chapitre 2 de Romains, chapitre de Romains, Paul va leur impliquer autant dans le péché que les païens, mais il va trouver beaucoup plus difficile de impliquer les juifs en tant que pécheurs que les païens. Et c'est pour cela, dans cette période où la première église était juive, pendant très longtemps, il y avait pas mal de juifs quand même qui se convertissaient, 2000 d'un moment donné, 5000 à notre heure, tous juifs. Et pendant presque une génération, l'église consistait primordialement des juifs chrétiens. Ils avaient du mal à accepter les autres. Pierre lui-même avait du mal à accepter les autres. Même après avoir été un évangéliste de la parole de Dieu, il n'avait jamais une seule fois mis le pied à l'entrée d'une maison non juive. Jamais. Chrétien depuis des années. Suiveur de Christ depuis des années. Jamais je ne mettrai mes pieds dans la maison d'un sale païen. Oh, maintenant, peut-être il disait plus sale. Mais le racisme était quand même très, très, très fort. Ils avaient du mal jusqu'à ce qu'ils reçoivent ce rêve dont vous êtes au courant de cela Et voilà ce drap qui descend avec des choses interdites de manger, et il entend une voix, mange. Tu blagues? Jamais dans la vie. Je ne l'ai jamais fait, je le ferai jamais. Il est rentré une fois, il est redescendu une deuxième fois, il est rentré une deuxième fois, il est redescendu une troisième fois. Mange. Et il n'a pas mangé. Enfin, on ne dit pas qu'il a mangé, mais il a commencé à comprendre. Il y a quelqu'un qui va frapper à la porte, Pierre, et il faut que tu le suives. Pose pas de questions, c'est moi Dieu qui te parle. Fais ce qu'il demande de vous. Quelqu'un frappait à la porte. Il rentrait chez Corneille. Devant la porte, Pierre, pour la première fois, met le pied à l'intérieur d'une maison. Il était choqué peut-être, il pensait qu'il allait mourir. Mais il restait vivant. Il tenait le choc. Et il disait, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Nous sommes ceux qui ont prié Dieu et nous avons reçu un message d'envoyer chez vous pour que vous veniez chez nous parce que vous avez quelques nouvelles à nous annoncer. Allez, c'est à vous le plateforme. Et Pierre dit, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais mangé chez avec un païen. Mais Dieu me montre. Dieu me force. J'ai pas le choix. Je suis poussé par Dieu de ne pas faire autrement que de vous accepter en tant que frère et sœur en Christ. Et maintenant, Paul est appelé pour amener l'évangile partout dans toutes les églises, et nous arrivons à Actes chapitre 15 où les juifs, ils peuvent plus, les juifs chrétiens, attention, les juifs chrétiens, ils peuvent plus, les païens, ils se convertissent rapidement. Il ne vient pas pour faire toutes les cérémonies de purification comme les juifs. Nous avons passé toute notre vie, des heures et des heures par semaine et par mois, pour faire rigoureusement la loi de Moïse, pour être justifié devant Dieu. Et on ne se sent même pas justifié après tout faire, mais on fait ce que Dieu avait commandé que nous fassions. Mais ces païens ici, ils viennent à une réunion d'évangélisation, ils entendent l'évangile, ils baissent la tête, ils remercient Dieu pour le salut, ils acceptent, ils sont entrés dans l'église, ils sont baptisés, ils deviennent de suite des membres de l'église. C'est pas possible. C'est inadmissible. Et il envoie à Pierre. Et Pierre revient, chapitre 11 de Actes. Il est mis devant leur tribunal, si vous voulez. Ils sont très austères. Et Pierre commence. Et pour la troisième fois, j'avais souvent posé la question, pourquoi Actes, qui ne fait que 28 courts chapitres, qui rapporte tout ce que nous savons de la première génération de chrétiens, l'église primitive. Et trois fois, nous lisons de la conversion de Corneille et de ce drap qui descendait. Là où Pierre l'avait expérimenté, ce rêve, dans la maison de Corneille, à la fin du chapitre 10, encore chez les Juifs, quand ils rentrent à Jérusalem pour se mettre devant leur austère tribunal, et il répète en détail toute l'histoire. Et quand ils arrivent à la fin, ils disent, nous ne pouvons rien dire. Dieu a voulu que des païens soient sauvés autant que nous, soient donnés le don de la repentance autant que nous. Et on ne peut pas nier. Et ils s'accordaient. Il y avait le conseil de Jérusalem, où il y avait certaines concessions qui a été données pour que cette transition, cette période de transition soit plus soutenable, parce que c'était dur. Et il n'y a aucun lieu où cette incapacité de voir en égalité d'autres personnes dans d'autres cultures, dans d'autres races, dans d'autres couleurs, dans d'autres langues puisse être en égalité avec nous. Alors, cette possibilité, cette tendance est innée, je crois, dans chaque individu, où que ce soit. En Malte, on était là, on a fait des tours. Wow, les Maltais, ils sont très fiers de chez eux. Et on a l'impression qu'ils sont, ils ont une certaine de complexe de supériorité au-dessus des autres pauvres personnes qui n'avaient pas la joie de d'être nées en Malte. Et puis, on est parti dans l'île de Gozo vendredi. Et puis, Gozo, c'est encore une île élie. Et la guide, elle nous a dit, nous sommes une seule peuple. Oui, c'est vrai, mais nous sommes des gens de Gozo, dit-elle. Et des gens de Gozo ne veulent pas perdre leur identité parce que, il y a certaines choses, il y a une certaine supériorité qu'ils ressentent que des autres personnes sur l'île de Malte. Ainsi de suite. C'est une chose innée dans l'humanité déchue où il a cette obsession, cette nécessité, entre guillemets, de se sentir supérieur à un autre groupe de personnes. Et dites-moi si ce n'est pas vrai ou pas. C'est vrai. Et c'est très humain. Et Paul était appelé par Dieu de amener l'évangile. Et puis, quand on arrive à verset 15, ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer, vous aussi, à Rome, l'évangile, à vous qui êtes à Rome, parce que, verset 16, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui, du juif, premièrement. Verset 5, il en avait parlé des barbares, ainsi que des romains très élevés en culture, raffinés, puis il y a des barbares, puis il y a des sages et des non-sages, il dit. J'ai une dette à tout le monde, verset 14. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants, aux ignorants. Ainsi, un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte. Ça, c'est une technique littéraire pour dire le opposé de quelque chose, pour souligner le contraire. Par exemple, tu manges quelque chose, tu dis, c'est pas mal. Et quand vous dites c'est pas mal, vous voulez dire par cela c'est très bon. Hein? On dit souvent des choses comme cela, c'est pas mal. Parce que vous voulez souligner le fait, waouh, j'étais surpris, c'était très bon ça. Et Paul veut dire, non simplement est-ce que je n'ai pas honte, ça c'était quelque chose de très, presque péjoratif. En parlant de l'évangile, en parlant de l'évangélisation, entre nous, nous disons, écoute, n'aie pas honte, parlez, et nous pensons que si jamais je ouvre la bouche pour dire un seul mot, waouh, j'ai un point pour moi au ciel, n'est-ce pas? Paul a impliqué cette idée juste pour dire, c'est bête de parler comme ça. Pas du tout est-ce que j'ai honte. Je dis, je n'ai pas honte, comme ce n'est pas mal de prêcher l'évangile. Au contraire, c'est quelque chose de, c'est quelque chose qui me préoccupe sans aucune hésitation, aucun nombre de doutes. aucune ombre de hésitation dans certaines situations délicates ou quoi que ce soit. Paul allait, quelqu'un a dit, quand Paul allait dans une ville, il allait premièrement en prison pour voir comment c'est en prison, parce qu'il dit, quelques jours, je serai là. Je ne sais pas s'il faisait ça ou pas, mais il arrivait de terminer en prison très souvent, n'est-ce pas? Pas parce qu'il était forcément offensif dans sa manière de présentation, mais l'évangile, dit Paul, est une offense. L'évangile en soi. Et ça, c'est une des raisons pour que Paul commence par parler de la justice plutôt que l'amour. Tout le monde aime un Dieu qui aime. Tout le monde aime entendre parler de l'amour de Dieu. Oui, il y a des gens qui sont en colère contre Dieu et vous dites, mais écoute, Dieu est un Dieu d'amour et ils vont exploser en colère, mais ils veulent apprendre qu'il y a quelqu'un qui leur aime, mais ils ne veulent pas apprendre qu'il y a quelqu'un qui est en colère avec vous parce que votre manière d'agir, de vivre, de penser, de réfléchir est en opposition directe à sa volonté. Et donc, on a cette tumulte à l'intérieur de nous. Et Paul dit, je suis content parce que je viens avec une puissance qui peut vous sauver. Oui, mais sauver de quoi? Continuez. Parce que en lui, en l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il est en train de leur dire, qu'est-ce que c'est l'évangile? L'évangile est une question de justice. L'évangile est une question de justice. Pour la première fois, vous pouvez, si vous m'écoutez, si vous comprenez bien ce que je dis, si vous saisissez, non simplement intellectuellement, mais dans vos cœurs, vous ne pouvez ne pas être touché émotionnellement dans le sens que ce que vous cherchez est disponible. Quelqu'un a dit, je dois réfléchir un peu plus pour dire s'il a absolument raison, les deux choses que l'homme cherche, c'est pouvoir et justice. On cherche le pouvoir. Faites voir si vous avez le problème. Ce désir de dominer, ce désir de pouvoir dire, j'ai 10 personnes qui travaillent sous mon autorité, où j'ai 100 personnes qui travaillent sous mon autorité dans mon bureau. Le désir d'être le chef de quelqu'un. Et les politiciens, ils ne s'arrêtent pas. Ils sont jamais contents. Ils dominent dans certains domaines très importants, très influentiels. Mais ça donne simplement envie, plus d'envie, d'aller encore plus loin. Pour pouvoir dominer là où ils n'ont pas pu dominer, jusqu'à la présidence de la République. Et comme quelqu'un a sagement dit, le pouvoir corrompt. Plus de pouvoir, plus de corruption. Pouvoir ultime, corruption absolue. Nous n'avons que regardé les pages de l'histoire du monde pour voir, avec des exceptions assez rares, le pouvoir entier qui corrompt entier la justice. La justice. Et on se justifie et on arrive à se justifier parce qu'il n'y a personne qui n'ose pas dire autrement. Alors, Paul est en train d'attaquer une mentalité humaine avec une présentation radicale, nouvelle, qui ne connaissait pas avant. L'évangile concerne une justice révélée. En l'évangile, en Christ est révélée la justice de Dieu. Si je m'arrête là, ça devrait faire peur. Chaque fois qu'il arrivait un messager de Dieu, même parfois un prophète, mais quand nous étudions des anges avec Lala il y a quelque temps, je crois pas qu'il y ait une exception où quand un ange de ciel arrivait et qui disait « N'aie pas peur !» Très souvent, c'est la première chose qu'il disait « N'aie pas peur !» Mais même qu'il disait ça, ça s'arrêtait pas qu'il tremblait de crainte, parce que on n'a jamais été si proche à Dieu. On n'a jamais été si proche à une lumière qui rayonne dans ma conscience, et j'ai l'impression que celui qui montre cette lumière lit tout ce qui est dans mon cœur, tout ce que j'ai fait dans le passé. On vit dans la précipice du panique. Il faut pas beaucoup de choses pour que nous précipitions sur le panique. Et pour beaucoup de choses, il fait au maximum le droit de mourir avec respect, comme serait le cas avec beaucoup, entièrement incapables de faire quoi que ce soit. Quelqu'un dit, on est arrivé dans le monde avec quelqu'un qui changeait nos couches, et 95% du monde vont partir de ce monde avec quelqu'un qui change leur couche. Et ça, c'est pas respectable. Ça, c'est indigne de l'humanité. Je veux mourir quand je décide à mourir. En tant que chrétien, j'espère que vous n'avez pas cette pensée, mais c'est très humain et ça arrive. Euthanasie, c'est une chose que je suis très surpris qu'il n'avait pas dominé le plan moral et éthique depuis très longtemps, jusqu'à maintenant. Ça commence à imprégner aussi. La justice de Dieu arrive. On ne peut pas échapper à la justice de Dieu. Mais c'est la bonne nouvelle, Paul est en train d'annoncer. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit. Paul, est-ce que c'est quelque chose de nouvelle? Non, non. Il est écrit en Habacuc, chapitre 2, verset 4, le juste vivre par la foi. Quelque chose de merveilleux. L'évangile présente une justice où pour la première fois, vous pouvez vous arrêter de vous justifier et accepter une justice garantie de vous justifier. Ça, c'est formidable. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. L'évangile, c'est qu'il existe une... Vous allez jusqu'à l'enfer en vous justifiant. Mais donc, Paul va passer... Chapitre 1, verset 18, qui est le prochain verset, qui parle de la colère de Dieu qui manifeste contre toute impiété, contre toute quoi? Injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité en captive. Qui est exempt de cette mentalité de retenir injustement la vérité de justice captive? La preuve, notre justification de soi qui ne s'arrête jamais de le faire, même à l'intérieur de nous, même à notre inconscience, qui était illustrée par... Moi, j'étais tellement fasciné par ce qui... Je passais des heures juste sur le balcon regardant à cette eau. C'était la fascination de la puissance de l'eau contre quoi l'homme est tellement impuissant dans sa plus grande capacité technologique et grandeur, mettre sur l'océan un tout petit point par rapport à l'immensité de la splendeur de la puissance de Dieu. L'homme veut insatiablement être puissant, avoir puissance, et l'homme veut insatiablement avoir la justice, une justice qui peut peser sa conscience, une justice où il n'est pas obligé contre de se faire face. Je vais juste mettre quelque chose sur le tableau pour que vous voyez dans tout le livre de Romains. Notez Christ, humanité et l'apôtre Paul. Dans tout le livre. Et à partir de maintenant, de ce parti du livre, depuis le début, Paul présente une nouvelle puissance qui, attention, est une puissance révélée. Une puissance qui ne se comprend autrement que par révélation. Et une puissance qui doit être accordée à celui qui croit. Et puis, il va souligner un problème aussi ancien que la chute de Adam et Ève dans le jardin de Éden. Ce problème du moi, ce problème qui cherche vivre indépendant de une puissance devant laquelle je dois toujours me prosterner, toujours soumettre mes reconnaissances, toujours admettre mon impuissance, toujours dire que si ce n'était pas pour Dieu, je ne serais que nul. Je ne veux pas être nul. Et si je ne veux pas être nul, je veux ne pas être nul de moi-même. J'ai un voisin qui vient me parler assez régulièrement, ça fait un moment, qui dit, je ne suis pas nul. Je suis quelqu'un de valeur. Et je suis tout à fait d'accord. Mais si seulement il écouterait, d'où vient votre valeur? Votre valeur est estimée contre quelque chose qui donne de valeur, comme cette illustration que j'avais très souvent utilisée de celui qui est dans le désert, qui est presque, il n'a pas de, s'il ne boit pas quelque chose, et il est gonflé, il rêve d'eau, et à un moment donné, il voit une bouteille d'eau devant lui, il se met vers la bouteille d'œil et là, ce n'est que des diamants dedans. Rien que des diamants. Aucun valeur innée. Le valeur est déterminée par une chose artificiellement à l'extérieur, des gens qui désirent certaines choses plus que d'autres et qui sont prêts à donner tant d'argent pour l'avoir. L'eau, c'est ce qu'il a voulu. Intéressant que je ne crois pas que le... Peut-être je me trompe, vous pouvez me dire après, mais je ne crois pas que le salut est comparé au diamant, mais il est comparé à, plusieurs fois à de l'eau. Venez à l'eau vivant. Venez à la fontaine. Venez et achetez sans rien de l'eau et du pain. Et l'humanité a le problème des faux valeurs, de fausses justices. Et Paul, quel exemple de grâce est plus convenable que l'apôtre Paul. Vous ne pouvez pas lire les épîtres de Paul sans que vous sentez presque la présence de Paul. Ce n'était pas juste quelqu'un qui a reçu un message mystiquement et puis il a été à machine à écrire qui avait donné ça, puis vous êtes présenté cela. Vous voyez le cœur de Paul dans chaque verset. Vous voyez des illustrations de Paul. Vous voyez Paul en train de s'exprimer. Vous avez l'impression que ça vient de Paul. Et ça vient de Paul. Il parlait librement. Le Saint-Esprit guidait chaque mot que Paul écrivait. Mais ça ne m'étonne pas que Paul, parfois, il écrivait, puis il me dit, non, c'est pas comme ça. Biffez ça, il dit à son secrétaire. Et puis il a biffé, il l'écrit autrement. Pour passer du temps pour présenter cela correctement. Et nous avons toute raison de savoir ce qu'il a terminé par donner était exactement ce que le Saint-Esprit a voulu dire pour que nous puissions dire avec assurance chaque mot. La parole de Dieu est verbalement inspirée par le Saint-Esprit qui nous a donné la vie à travers la parole. Donc Paul est un exemple de grâce que nous voyons à travers tout cela. Et puis, on ne peut pas rester longtemps, mais rapidement, au début de Romains, nous avons les qualifications de Jésus. Je mettrai tous les trois ici. En verset 2, l'évangile a été promis auparavant. Paul se présente verset 1er, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, séparé, mis à part pour une œuvre, c'est-à-dire annoncer l'évangile de Dieu. Il est appelé l'évangile de Dieu, parce que il est l'évangile de Dieu. Enfin, on a l'impression que Dieu était quelqu'un de très loin, et Jésus nous a tant aimés, et donc il a dû forcer la main de son Père de lui permettre de venir ici pour qu'il puisse prendre nos pénalités. Et donc, nous pouvons aller avec Jésus, avec nos prières, mais il vaut mieux pas aller à Dieu. Jésus est sévère aussi parfois. Et c'est pour cela que ça convient très bien dans le catholicisme d'aller à Marie. Marie, elle a un cœur très doux. Elle va toujours plaidoyer pour vous. Vous avez fait des bêtises, mais bon, ce n'est pas si grave que cela. Si vous allez à Marie, et si elle vous acquitte, elle peut aller à Jésus, elle peut plaidoyer avec Jésus, et elle sait comment toucher le cœur de Jésus pour qu'il termine par l'écouter. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Franchement, c'est blasphématoire, mes amis. Nous allons pour la première fois depuis la mort de Jésus-Christ, quand le voile était déchiré depuis le haut jusqu'en bas, le droit, le privilège, l'invitation d'aller directement au trône de la grâce. Pourquoi? Parce que nous avons été réconciliés avec Dieu. Ce n'était pas Dieu qui n'a pas voulu cette réconciliation. C'était nous qui avons résisté. Réconciliés avec Dieu pour aller directement portant le nom de son Fils. Le code de passe, parce que Dieu aime son Fils, et ceux qui sont en Christ sont en Dieu. Et ce que son Fils aime, Dieu aime. Et Dieu aime celui qui est en Christ autant qu'il aime le Fils. Et il nous aime. Il n'est pas juste mécontent que son Fils a aimé quelqu'un qui ne l'aimait pas. Non. Il avait présenté ses élus à son Fils pour que son Fils aille, fasse ce qu'il est nécessaire pour lui rendre qualifié de recevoir la justice qu'il allait leur offrir après avoir payé un prix énorme. Jésus-Christ, Paul n'est pas en train d'annoncer une doctrine nouvelle. Non, il avait été annoncé auparavant, promis de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et nous lisons qu'il concerne, cet évangile concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré, c'est un mot qui veut dire établi, sans, entre certaines limites. Il est entre certaines limites à voir. Il est le Fils de Dieu. Jésus l'appelait le Fils de l'homme. D'une manière ou l'autre, Jésus a pris sur lui-même, en toute sa divinité, toute une humanité. Il est 100% Dieu et 100% Fils, homme. J'ai entendu une illustration pendant la Deuxième Guerre mondiale en France, la résistance française qui travaillait en cachette, et parfois un agent devait rencontrer un agent qu'il ne connaissait pas. Comment savoir si ce n'était pas un contre-espion? Et quand un espion venait ici, il prenait tout simplement un morceau de papier et le déchirait comme ça. Il lui avait donné un à cet agent et l'autre a été envoyé à la personne qu'il devrait rencontrer pour partager de l'information. Et quand ils sont venus ensemble, chacun prenait leur bout de papier et puis il cherchait à cet acte. Comment ça se fait que Dieu, comment ça se fait que Jésus-Christ a pu être à 100% Dieu et en même temps à 100% homme? Il a fait. Et quand les deux sont ensemble, et reviennent, il n'y a pas de trace qu'il y avait une division. Ça, c'est peut-être la meilleure illustration, pas la meilleure illustration, mais il y a beaucoup de gens, quand vous parlez souvent avec des gens témoins de Jéhovah, ils poseraient la question, mais est-ce que vous les évangéliques ou baptistes ou qui que ce soit, comment ça se fait que quand je lis dans ma Bible, nous lisons Jésus priait à Dieu. Mais s'il priait à Dieu, est-ce qu'il priait à lui-même? Et ça, c'est une question qui se pose assez souvent, parce que la conception de la Trinité, qui est une chose que personne, aux certaines limites, ne peuvent pas vraiment réussir à saisir, mais nous voyons qu'il y a trois individus distincts dans une seule divinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Jésus éloigné de son Père parce qu'il avait laissé du côté certaines qualités qu'il imposait une distance à cause de sa chair de son Père, et il devait qu'il prie comme nous. Il devait qu'il saisit dans la visibilité de son cœur l'invisibilité de son Père. Et Jésus marchait 33 ans dans la chair, rempli de l'Esprit de Dieu pour devenir le chrétien parfait, si vous voulez. Parce qu'il n'y avait aucune chose en lui qui pouvait succomber à aucune tentation, même pas contrebalancer entre deux choses. Il était purement qualifié de devenir la seule personne qui pouvait donner sa justice, parce qu'il est mort sur la croix, pour que la justice, avec toutes ses horreurs et ses réclamations, tombe sur lui, afin que celui qui est sauvé par, qui est justifié par la foi, puisse justifier. Celui qui est justifié par la loi puisse justifier ceux qui croient en lui par la foi. On s'arrêtera là aujourd'hui. Ce verset 16 et 16, c'est un océan dans lequel on peut plonger. Quand Luther a compris ça, verset 17, quand Luther, Martin Luther avait compris verset 17, il a promulgué un changement à travers toute l'Europe. Quand John Wesley avait compris verset 17, en lisant un commentaire de Luther, il avait provoqué des grands réveils aux États-Unis et en Angleterre. Parce qu'en verset 17, nous lisons, en Jésus-Christ est révélée la justice de Dieu, de foi en foi. Parce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi.